Radio Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. À l'occasion de la journée de l'enseignement célébrée aujourd'hui, à Kinshasa, à l'Institut Technique Commercial Jiro Binza, un nouveau vent souffle avec la numérisation des services. Au Kasaï Central, par contre, certains enseignants souffrent de l'irrégularité du paiement de leur salaire depuis plusieurs années. Et au Maniema, une autre réalité qui inquiète l'administrateur du territoire de Kasongo. À Massissonor-Kivu, plusieurs villages devenus invivables à la suite de l'activisme des groupes armés. Selon des sources locales, des habitants sont systématiquement pillés et quelques-uns soumis à des actes de torture. Ces sources indiquent que ces banditismes ruraux récurrents contraignent désormais de nombreuses familles à vivre comme des déplacés internes au sein même de leur village, faute de sécurité. La journée nationale de l'enseignement en RDC est célébrée chaque année le 30 avril, une journée qui rend hommage au personnel éducatif, scientifique et met en avant le rôle crucial de l'éducation dans le développement de la nation. À cette occasion, les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi ont évalué les secteurs de l'enseignement en RDC. D'abord, cette information, la motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Jacquemain Chabani, a été rejetée ce mercredi à l'Assemblée nationale. En cause, l'adoption d'une motion incidente soulevant des irrégularités dans la procédure, notamment la présence des signatures jugées non conformes. Les initiateurs reprochaient au ministre son inefficacité face à la dégradation de la situation sécuritaire ainsi que des interférences dans le fonctionnement des institutions provinciales et locales. Retour sur le déroulement de cette plénière avec Grace Amzati, notre permanent au Parlement.
Qui sont contre ?
C'est dans une atmosphère particulièrement tendue que les députés ont examiné cette motion de défiance. 490 élus ont pris part à la séance, une mobilisation inhabituelle. À l'origine de la démarche, les députés Ladi Yangotikala, élu de Kisangani, a longuement exposé les griefs contre le vice-premier ministre. Il évoque notamment des cas d'ingérence et d'abus de pouvoir dans plusieurs provinces, dont Kinshasa, le Haut-Katanga, le Kasaï central et la Tchopo. Il dénonce également la montée de l'insécurité marquée par des braquages et des vols à main armée à Kinshasa et dans plusieurs villes. Mais en pleine plénière, le député Gary Sakata introduit une motion incidente. Il met en cause la régularité de la démarche, évoquant notamment la présence des signatures des non-députés ainsi que des irrégularités dans les identités des signataires. Soumise au vote, cette motion incidente est adoptée à la majorité. Conséquence, la motion de défiance est déclarée irrécevable et son examen interrompu. Le président de l'Assemblée nationale met alors fin à la procédure.
L'approbation de cette motion incidente met ainsi fin à l'examen de la motion de défiance. Il n'y a donc pas lieu d'engager ni débat ni vote de celle-ci.
Une fin de séance dans un climat mêlé d'amertume et de satisfaction.
Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la journée nationale de l'enseignement célébrée ce 30 avril, Radio Kapi a effectué une descente à l'Institut Technique Commercial Jiro Binza à Delvo, dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, où un nouveau vent souffle avec la numérisation des services. Un motif de satisfaction pour les enseignants et élèves de cette école publique. Les détails dans ce reportage de Joël Ouéti.
Longtemps laissé dans un état de délabrement total, l'ITC Jiro Binza vit une nouvelle page de son histoire. Après l'acquisition de 300 bancs dotés par les services nationaux l'an dernier et la réhabilitation des bâtiments, cette école dispose désormais d'une nouvelle salle numérique, comme le confirme son préfet, Miezi Kabui Kumelk.
Nos élèves ont maintenant la facilité d'apprendre l'informatique dès l'école primaire. Nous avons à peu près 25 machines. Ça facilite nos élèves à faire des recherches scientifiques à travers l'Internet.
Victor Mpoimou Benga, conseiller pédagogique, n'a pas caché sa joie face à cette évolution.
Maintenant, notre école a rehaussé le niveau. Ce que l'on ne faisait pas sur le plan numérique, on est maintenant à mesure. On a des projections dans les cours de géographie et les élèves voient quand même ce qu'ils ne voyaient pas auparavant.
Élèves en 4e Humanité Sciences, Etamba Makpolo s'est dit fier de vivre le développement de son école.
Avant, on n'avait pas assez de salles, mais maintenant nous avons plusieurs salles. Merci pour les enseignements, la patience qu'ils ont envers nous et merci aussi pour la formation.
La numérisation constitue de nos jours un levier indispensable pour le développement. Son intégration dans le système éducatif de cette école est une lueur d'espoir pour tous les élèves.
Restons à Kinshasa où une créatrice passionnée bouscule les codes de la pédagogie classique en proposant une autre manière d'enseigner, apprendre en s'amusant. Madame Kessie Kabiona Espérance conçoit du jeu des sociétés éducatives pensées pour stimuler la curiosité, favoriser la découverte et rendre l'apprentissage plus attrayant. Une initiative innovante qui rappelle que l'apprentissage est un processus continu et qu'il peut aussi rimer avec plaisir et créativité. Madame Kessie Kabiona Espérance, fondatrice de la structure Chez la Culture, explique au micro de Daniela Awa.
Ce qui m'a particulièrement bousculé au fait à créer ce jeu, c'est l'observation d'une totale admiration de notre peuple pour l'extérieur. Le jeu est composé d'un plateau, de dés, des pions et puis des questionnaires qui pour les adultes sont des cartes, pour les enfants sont un carnet. Suite à la gestion des cartes avec les enfants, il y a la crainte de perdre. Il est question de se challenger sur la connaissance des différentes thématiques du pays. Ce jeu et la plupart des activités que nous mettons en place s'adressent premièrement aux Congolais, puis à tous les touristes qui aimeraient bien découvrir ce pays. S'il y a un Congo profond, un Congo beau, une mine d'exploration, alors on se dit, c'est un outil touristique aussi pour les étrangers. Nous avons les arts, la géographie, l'histoire, nous avons le sport, la nature et la littérature. Nous sommes en partenariat avec des bibliothèques, des écoles, des centres de recherche. Nous nous actualisons sur l'information. Par exemple, cette version, nous allons de 1800, depuis l'époque de l'EIC, avant même l'EIC, à 2023.
Rendons-nous au Kassai où les enseignants de la province éducationnelle Kassai 2 traversent depuis plusieurs années une situation difficile marquée par l'irrégularité du paiement de leur salaire. Il leur arrive de passer 2 à 3 mois sans percevoir leur prime, une réalité qui affecte gravement leurs conditions de vie. Cette instabilité financière a un impact direct sur leur survie alors que beaucoup peinent à subvenir à leurs besoins quotidiens et à ceux de leur famille. Les détails dans ce reportage de André Katinde Ngalamulume.
Entre insuffisance salariale et irrégularité de paiement, les enseignants de la province éducationnelle Kassai 2 peinent à joindre les deux bouts. Une situation devenue chronique et qui continue de fragiliser le quotidien de ces professionnels de la CRE. La Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO, s'indigne de ces conditions de travail qu'elle juge particulièrement difficiles. Son coordonnateur, Félicien Lobo, affirme
« Le salaire des enseignants est devenu irrégulier au Kassai 2. Ça ne parvient pas à satisfaire aux besoins de ces derniers.
Une précarité qui contraint certains enseignants à s'endetter ou à emprunter de l'argent à des taux d'intérêt élevés simplement pour assurer leur survie et celle de leur famille. À Mouika, Augustin Ditalala, enseignant à l'Institut 1 de Mouika, témoigne de cette réalité quotidienne.
Nous contractons des dettes terribles. Nous prenons de l'argent auprès des agents de Banque Lambert et nous remettons 50%. Par exemple, si je prends 100 000, je dois remettre 150 000.
Face à cette réalité, Félicien Lobo, coordonnateur de la FENECO appelle les gouvernements à améliorer les conditions salariales des enseignants afin de leur permettre de travailler dans la dignité et avec sérénité. Kananga, André Katendenga Lamulume, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, l'administrateur du territoire de Kabambare s'est dit inquiet du fait que l'opération d'identification et d'enregistrement des enseignants de son territoire à Equity Bank dans le territoire de Kasongo pénalise les apprenants. Selon Warubangi Katuta Albert, c'est depuis le 25 mars dernier que ces derniers sont partis à Kasongo pour cette opération, abandonnant les élèves à leur triste sort. Vu que cette situation porte préjudice à l'éducation des enfants, Warubangi Katuta Albert appelle à l'implication des autorités compétentes pour une solution adéquate. Il a été joint par Florence Kizalunga.
C'est depuis le 25 mars que les enseignants ont quitté le territoire de Kabambare sans notre avis, sur appel du prophète et les sous-prophètes d'une manière illicite, les enseignants de mon territoire pour les amener à Kasongo en raison d'identification et enregistrement des enseignants à l'Equity Bank. Or, nous avions tous suivi cette identification pour se faire d'un territoire à un autre. Mais chose grave que nous sommes en train de présenter avec regret devant tout le monde et que les enseignants quittent le territoire de Kabambare pour aller se faire identifier à Kasongo. Et même les agents disent clairement qu'ils ne vont pas rejoindre les chefs-lieux du territoire. C'est une inquiétude pour nous. Nous demandons aux autorités de s'impliquer pour cette cause-là, puisque ça pénalise les élèves, ça pénalise les parents et ça pénalise aussi les enseignants. Imaginez du 25 mars jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a même pas une école qui ouvre les portes. C'est une inquiétude pour nous. Nous demanderions à chacun, comme autorité, de s'impliquer de sa manière et d'une autre pour que cette équipe de l'Equity Bank puisse rejoindre les chefs-lieux du territoire de Kabambare.
Dans Kivu, plusieurs ménages ont été victimes de pillages et de violences lors d'une incursion d'hommes armés non identifiés survenue dans la nuit de mardi à mercredi dans le village Kishonza, groupement Buabo, territoire de Masisi. Selon des sources locales, les habitants ont été systématiquement pillés et quelques-uns soumis à des actes de torture. Ces sources indiquent que ces banditismes ruraux récurrents contraint désormais de nombreuses familles à vivre comme des déplacés internes au sein même de leur village, faute de sécurité. Bernadette Nyangui pour le détail.
L'attaque de Kishonja intervient la nuit de mardi à ce mercredi, seulement 24 heures après une autre incursion armée enregistrée lundi soir dans l'enceinte de l'école primaire 8e CEPAC située au chef-lieu du territoire de Masisi. Près d'une centaine de ménages des quartiers Biréré et Kansayo vivaient dans ces sites comme déplacés à la recherche d'une relative protection. Cependant, surpris par les hommes armés, ces sinistrés se retrouvent dépouillés à nouveau de tous leurs biens, notamment des chèvres, de l'argent et de vêtements. Ces attaques, souvent accompagnées de tirs d'armes légères, renforcent un climat de peur permanente à Masisi, un territoire sous contrôle de l'AFC-23, mais où opèrent également d'autres groupes armés d'Iwazalendo. Des sources de la société civile dans le territoire de Masisi attribuent ces incursions à certains éléments de ces groupes armés dans plusieurs secteurs, notamment Katoui et Osobanyungu, ainsi que dans certaines parties des chefferies de Baoundé et Bachali, telles que Ufamando et Bachali Mokoto. Des combattants auraient érigé des barrières illégales à ces barricades, des passants sont rançonnés pendant que les cas d'incursion nocturne, de pillage et de torture des civils continuent d'augmenter, rendant plusieurs villages quasiment invivables.
Au Congo central, pendant ces temps, un groupe de hors-la-loi communément appelé Kuluna a été arrêté ce mardi 28 avril aux environs de 20 heures dans le territoire de Mwanda après avoir semé la panique au rond-point Fina vers le quartier Baki. Les sources présentes sur les lieux au moment des faits rapportent qu'il y a eu des pillages et plusieurs vendeurs ont perdu leurs biens. Contactée par Radio Kapi, l'administratrice du territoire de Mwanda affirme que la situation est sous contrôle. Elle appelle la population au calme tout en rassurant que la problématique de la sécurité dans les territoires de Mwanda demeure parmi ses priorités. L'administratrice du territoire de Mwanda, Aminata Panda, jointe par Élise Kavira.
Il y a eu de Kuluna hier vers le rond-point Fina, mais qui sont maîtrisés. D'ailleurs, on venait d'arrêter le dernier groupe tout à l'heure. Là, il y a eu un coup de balle de sommation pour disperser la population. C'est ce qui a fait qu'on avait arrêté deux hier et le reste, on venait de les arrêter. D'ailleurs, on va le présenter devant la presse tout à l'heure. Mais on fait l'essentiel pour éradiquer tout ce monde-là.
Ce journal se poursuit dans le Haut-Katanga où la mairie de Lubumbashi a initié depuis deux semaines l'opération de démantèlement des panneaux publicitaires érigés le long des principales artères de la ville. Objectif visé, mettre de l'ordre dans les secteurs et en identifier les propriétaires. Dans les camps des publicitaires, on encourage cette opération et sollicite que ce domaine soit assaini et que les panneaux soient placés dans le respect de la réglementation en la matière. On écoute Stéphane Kongolo Kiba, Angula, président honoraire des publicitaires du Haut-Katanga, joint par Jean-Gandou Kabongo.
Nous avons constaté à un moment donné qu'il y avait un désordre, c'est-à-dire n'importe qui pouvait mettre les panneaux, même ceux-là qui ne sont pas autorisés à le faire. Il y a d'autres aussi qui s'improvisaient avec les opérateurs économiques qui ne sont pas habilités à faire des panneaux, faisaient aussi des panneaux. Alors c'est ce qui a créé un désordre à la matière, à telle enseigne qu'il y avait même d'autres panneaux qui obstruaient la visibilité des conducteurs, et tout comme d'autres panneaux qui étaient mal implantés. Alors avec l'initiative de l'autorité urbaine, C'était pour mettre d'abord de l'ordre, de réglementer cela, pour éviter que l'anarchie ne puisse pas régner. Alors, il fallait nécessairement qu'on puisse d'abord identifier ce qui font les panneaux publicitaires. Parce que c'est pas n'importe qui peut faire dans les panneaux publicitaires. On a constaté que même les expatriés qui n'ont pas qualité à faire ça, faisaient les panneaux publicitaires. Or, dans d'autres chiens, ce métier est réservé aux nationaux.
Une délégation du département de commerce et de l'industrie de l'Afrique du Sud est arrivée ce mardi à Kinshasa pour sceller un partenariat stratégique avec les fonds de la promotion de l'industrie FPI. C'est dans le cadre de la signature du mémorandum d'entente entre les deux parties tenues à Cape Town en février dernier. Le FPI et IDC sont dans une logique de cofinancement de projets structurants, créateurs des chaînes de valeur et des emplois décents en République démocratique du Congo. La délégation sud-africaine, conduite par Madame Makoshi Lektete, directrice générale de IDC, visitera les zones économiques spéciales de Kinshasa. On écoute à ce sujet le DG de FPI, Hervé-Claude Batoukonké, au micro de Richard Junior Kamunga.
La délégation sud-africaine et aussi les groupes BLIS, qui est un groupe dans les domaines pharmaceutiques, sont venus ici. Pour vous rappeler qu'après la mission économique, nous avons aussi signé un MOU au niveau de Cape Town avec Industrial Development Corporation, juste pour formaliser ce que nous avons fait au niveau de Cape Town et ce que nous avons fait récemment lors de notre visite à Johannesburg, quand nous avons eu l'opportunité de rencontrer nos partenaires qui nous viennent aussi ici pour investir dans le domaine pharmaceutique. Nous allons travailler de sorte que les choses puissent très bien se passer et que leurs investissements dans les domaines industriels, j'insiste, dans les domaines industriels puissent très bien se passer et qu'il n'y ait pas beaucoup de couacs au niveau de notre pays. C'est bien pour la population congolaise, c'est bien pour notre économie, c'est bien pour les Africains.
Actualité internationale.
Au Mali, le groupe djihadiste de Nîmes met en exécution sa menace de placer Bamako sous blocus après les attaques djihadistes et rebelles sans précédent qui ont frappé le cœur du régime à Kati, près de Bamako, où le ministre de la Défense a été tué. Des revers ont été enregistrés aussi à l'intérieur du pays où l'armée a perdu le contrôle de plusieurs villes stratégiques au profit de rebelles.
L'invité.
La journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo est célébrée chaque année le 30 avril. Une journée qui rend hommage au personnel éducatif, scientifique et met en avant le rôle crucial de l'éducation dans le développement de la nation. À cette occasion, les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi ont évalué les secteurs de l'enseignement en RDC. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Madame Cécile Chiombo, vous êtes secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle. Comment vous évaluez les secteurs de l'enseignement en RDC à l'occasion justement de cette journée nationale de l'enseignement? Quels sont les compartiments qui ne marchent pas en RDC?
Les compartiments qui ne marchent pas en RDC, nous avons un, les infrastructures. Il était prévu plus de 2 ou 3 000 écoles par le projet de 145 territoires. Mais combien d'écoles le système éducatif a eu à recevoir?
Et à travers la réforme sur la gratuité de l'enseignement, il était aussi prévu, n'est-ce pas, la construction de nouvelles écoles?
Oui, c'est de cela.
Ça n'a pas été fait sur le terrain?
C'est fait, mais c'est une goutte d'eau dans l'eau. Ces projets, moi-même, je vous ai dit l'autre fois, j'ai fait les tours, mais je n'ai pas trouvé des écoles nouvellement construites dans le cadre de ces projets à travers les pays. Vous pouvez faire autant de distances et vous raconterez à peine une école. Et on vous dit, c'est une école construite par le projet de 145 territoires. Vous allez aussi dans les compartiments salaires. Vous comprendrez avec moi qu'à tout bout du champ, il y a contrôle pour les fichiers de la paye. Il faut les nettoyer et c'est chaque année. C'est comme si on était en train de faire du surplace. Et nous avons reconnu qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'informations nécessaires. Depuis 2021 à 2025, il n'y a pas eu de données qui peuvent nous aider à évaluer le système. C'est pour dire, si aujourd'hui on arrivait à comprendre que voici les effectifs de la maternelle à l'université, nous avons autant d'enseignants et nous avons autant de personnel administratif. Et voici ceux qui sont payés et voici ceux qui ne sont pas payer. Ça pourrait nous aider à évaluer convenablement le système, puisqu'il ne faut pas continuer à créer des projets. Cependant, il faut soutenir les anciens projets pour que nous arrivions à évaluer convenablement le système afin d'aider le pays à évoluer.
Merci Kenny Kale, vous êtes professeur et conseiller au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Quelle évaluation vous également vous faites du secteur de l'enseignement en RDC?
J'ai suivi religieusement la prise de parole de Madame Chiombo sur le PDL 145 territoires. À date d'aujourd'hui, nous sommes à 1384 écoles qui ont terminé et livrées.
Et sur le plan salarial, sur le plan d'amélioration des conditions socio-économiques des enseignants.
Sur ce plan-là, je voudrais rappeler ici que nous avons eu des assises des Bibois en 2024. Et suite à ces assises-là, le salaire des enseignants a été révalorisé deux fois. Premièrement, au trimestre 4 de l'année 2024, de 50 000 francs congolais. Puis secondement, au trimestre 3 de 2025, de 50 000 francs congolais, soit un total de 100 000 francs congolais. Il faut rappeler, Monsieur Guimaté, que le salaire moyen de l'enseignant était autour de 300 000 francs, et donc l'ajout de 100 000 francs constitue une augmentation importante de l'ordre de plus de 30%.
Professeur Michel Bissa, vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, vous êtes secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences sociales. Comment vous évaluez le secteur de l'enseignement dans ces pays?
Aujourd'hui, s'il faut évaluer notre système éducatif, ne nous limitons pas à regarder la question des salaires, commençons par regarder la qualité de l'enseignement. Je regrette de constater que quand on essaie d'évaluer, on entre dans une approche quantitative. On dit que dans les programmes de 145, on a augmenté autant d'écoles. Non. Les écoles dans ces pays, publiques ou privées, chaque député en a créé dans son village. Il n'y a pas un ministère qui a pondu des arrêtés comme le ministère de l'EPST. On les a vendus en masse. Et donc, notre problème ne se pose pas en termes de quantité, mais c'est plutôt en termes de qualité. Et s'agissant de cette qualité, il faut commencer par questionner la qualité des enseignants. On a quels enseignants? Comment les ISP, l'UPN forment les gens qui devraient enseigner là-bas? Deuxièmement, il faut poser la question du programme. Vous savez que notre programme d'enseignement enseigne plusieurs contre-vérités, mais aussi notre système éducatif doit orienter les enfants vers le secteur technique.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal préparé pour vous par Jude Bilanda Nkumar et mis en onde par Jean-Claude Salamona Makengounsoalo. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.